Bonjour à toutes et à tous, on est le 2 juillet 2025 et il a fallu que je fasse un petit break et que la semaine dernière je dise dans ma newsletter que ça se ralentissait un peu, il y avait moins de news pour que l'on ait une avalanche de news. Évidemment, j'ai reçu des messages en privé qui me demandaient est-ce que je vais pouvoir commenter Gemini CLI, des choses comme ça. Eh bien oui, on va parler de tout ça, ne vous inquiétez pas. Je vais le faire en plusieurs épisodes, voilà, parce que vraiment, il y a eu beaucoup de news. Là, c'est un petit épisode de reprise. J'ai fait un petit break, j'étais la semaine dernière à Marseille, où j'ai fait un petit meet-up avec la communauté NoCode de Marseille, organisé par Muriel notamment, que je remercie au passage, qui organise tout ça depuis 2-3 ans maintenant. Et voilà, j'aime beaucoup le fait que voilà, quand je pars un petit peu en vadrouille, eh bien, je peux rencontrer toujours des no-codeurs et des no-codeuses. Donc voilà, donc je me suis dit, je vais faire une petite pause. Ça a ralenti un petit peu. Bon, voilà, j'ai fait un petit festival de musique. Du coup, je me suis dit, bon, allez, tant pis, je n'envoie pas de newsletter cette semaine. De toute façon, il n'y a pas grand-chose à raconter. Et en fait, il y a plein de choses. Vraiment, donc à tel point que, bon, là, sinon, je pourrais partir sur un épisode d'une heure. Et puis encore des choses un petit peu que je dois tester, parce que vu que voilà, j'étais un petit peu à droite, à gauche, j'ai un peu sprinté pour finir des choses avant mon petit break. Voilà, mais bon, on va regarder tout ça un petit peu en détail. Quand je dis beaucoup de choses, c'est beaucoup de choses spécifiquement sur le vibe coding. Donc ça, c'est quand même aussi vraiment dans mon angle favori, on va dire, et un petit peu précis. Et bien c'est là où je trouve qu'il s'est passé le plus de choses dans l'IA. Donc, si je prends un petit peu en vrac, si on prend... Du côté des outils de vibe coding, il y a eu pas mal de news dans Cursor, notamment. Windsurf, ils avaient fait leurs annonces déjà il y a 2-3 semaines, mais Cursor, beaucoup d'annonces, notamment le fait qu'on peut piloter Cursor maintenant de plein d'endroits différents. Alors, ça repose sur leur technologie d'agent asynchrone. Je reviendrai un petit peu là-dessus plus en détail, mais donc, vous savez, il y a plusieurs manières de faire du vibe coding. Une des manières, c'est vous promptez, l'IA vous donne du code, vous repromptez, voilà, vous avez une conversation avec l'IA et puis vous générez votre application petit à petit. Il y a une autre manière qui est apparue il y a quelques mois, c'est les agents asynchrones. Vous leur donnez une tâche, vous partez, vous allez faire votre vie et puis plus tard, donc tout ça va fonctionner dans le background, donc pas sur votre ordinateur, mais dans des instances, dans des serveurs distants. Et puis vous allez recevoir les réponses via, sous généralement la forme de pull request. Donc, plus vraiment des procédés de dev un peu traditionnels. Bon, c'est pas forcément la manière la plus simple, mais voilà. Donc ça, il y a Codex, les agents de OpenAI qui font ça. Il y a Jules, les agents de Google qui font ça. Et puis, Cursor a introduit ça aussi. Donc, Cursor, vous pouvez travailler en synchrone. Vous lui demandez du code, il va vous générer du code que vous avez sur votre ordinateur au moment où vous lui demandez. Et aussi en asynchrone. Eh bien, ils ont fait plusieurs annonces où sur leurs agents asynchrones, maintenant, vous pouvez les piloter depuis votre Slack. Donc ça peut être intéressant si vous êtes avec votre équipe et puis vous pouvez lui demander, OK, bah vas-y, maintenant, fais-moi une nouvelle fonctionnalité. Puis il va vous la faire et il va vous avertir quand il l'aura fait. Et vous, ensuite, vous pourrez aller relire le code et puis éventuellement merger ça, comme on dit, fusionner ça avec votre base de code principale. Et ils ont aussi rajouté la même chose dans une appli web et dans une appli mobile, notamment, ça c'est le truc le plus intéressant. Enfin, si on. Voilà, pour. C'est des cas très très précis, hein, mais bon, je trouve que c'est des cas d'usage très précis. Vous n'avez pas forcément besoin de déclencher du développement quand vous êtes en situation de mobilité, mais pourquoi pas? Au moins, vous avez la possibilité. C'est-à-dire que littéralement, par exemple, vous êtes dans le train, là où la connexion n'est pas très bonne et donc vous ne pouvez pas forcément facilement utiliser Cursor, puisque Cursor demande une connexion quand même un petit peu. Il fait des appels, des va-et-vient avec des API de d'IA, donc forcément, ben, il a besoin d'une connexion un petit peu permanente. Alors que là, vous pourriez être dans votre train, vous lancer des tâches, alors pas 12 000 hein, en parallèle, parce que sinon ça va être très très dur à gérer, mais et puis quelques instants plus tard, ou heures plus tard, ben, vous aurez vos résultats. Et puis surtout, vous pouvez surveiller, vous pouvez monitorer où est-ce que ça en est. Donc voilà, donc c'est assez intéressant. Donc ça, c'était les news, on a pas mal parlé, donc voilà, là... Cursor, je vous ai tout donné directement un peu. Voilà. Mais sur les autres outils, il y a aussi des nouveautés, notamment du côté de chez Lovable. Et alors ça, je n'ai pas encore testé, donc je vais juste vous l'évoquer. Mais ils ont sorti un mode agent. Un mode agent, qu'est-ce que ça veut dire? Alors ça m'a un peu surpris qu'ils disent ça, parce que bon, moi j'avais l'impression que c'était déjà un peu un mode agent. mais on va dire que c'est, ils vont changer un peu, en fait, je pense qu'ils profitent de ça pour changer un petit peu leur manière de facturer, parce qu'avant, en gros, bah, vous envoyez un message à Lovable, ils vous comptaient un crédit, puis vous donnaient une réponse, mais le contrôle n'était pas très fin. Puis vous faisiez plein de tâches, donc c'est déjà un peu un mode agent, mais là, c'est un mode où vous lui demandez des choses, il va planifier, il va faire différentes actions, il peut aller chercher sur Internet, il peut générer des images, bon. Je dois encore le tester, je ferai probablement une vidéo, quand j'aurai fait ça, je commenterai un petit peu plus. Mais ça, c'était la grosse news, c'est en bêta, en plus d'ailleurs, donc je ne sais même pas si j'y ai déjà accès. Mais ce qu'ils disaient, en tout cas dans leur annonce, c'est que ça avait l'air de mieux fonctionner, ça réduisait les erreurs de fonctionner de cette manière-là. Donc ça peut être intéressant, je suis assez curieux de voir. Et puis ça fait une facturation un petit peu plus flexible, parce que si vous lui demandez des choses très simples, bah, ça ne vous coûte pas un crédit, ça vous coûte moins par exemple. Ça c'est les outils no-code. Il y a un nouvel outil no-code qui est apparu. C'est un outil en ligne de commande qui s'appelle Gemini CLI. CLI en anglais, C-L-I. Je vous le prononce à l'américaine, hein, évidemment. C'est la ligne de commande. Vous connaissiez déjà Claude Code, qui est un outil dans ce genre-là. Si vous ne connaissez pas, allez voir sur ma chaîne YouTube. Il y a aussi Codex CLI, qui est une version d'OpenAI. Et maintenant, Gemini propose ça. Il faut que je le teste, donc je vous en parlerai mieux probablement dans un épisode un petit peu dédié. Le seul truc que j'ai noté qui a l'air spécialement intéressant, c'est que c'est gratuit jusqu'à un très haut point. Vous avez des limites qui sont très hautes, vous pouvez faire beaucoup de choses. Donc voilà, il faut que je le teste. Probablement que je le testerai demain matin en live, mais voilà, on verra et après j'en reparlerai un petit peu, je débrieferai un peu plus. Il y a des news aussi du côté de chez Anthropic. Et alors ça, c'est vraiment ce que j'ai le plus envie de tester. Alors j'ai vraiment pas du tout regardé, mais en gros, ils ont essayé d'améliorer un petit peu leur fonctionnalité d'artefact. Donc vous le savez, les artefacts, quand vous demandez à Claude de vous générer du code, il va vous mettre ça dans un artefact. Donc c'est un peu, il va pas vous mettre le code directement dans la conversation, il va vous créer un petit fichier séparé que vous allez pouvoir, sur lequel vous allez pouvoir avoir de la prévisualisation, par exemple si vous lui demandez de générer un petit site web, et des choses comme ça, vous pouvez les ajouter dans le projet. Et donc là, apparemment, maintenant, ils ont dédié tout un espace aux artefacts. Et en fait, en quelque sorte, que quelqu'un me l'a présenté comme ça, bah c'est un petit peu comme si c'était un mini ou un micro Lovable ou Bolt à l'intérieur de Claude. Alors, la personne qui l'a... Enfin, quand j'ai lu ça, bon, maintenant, il faut que je teste. Mais ça, pareil, je pense que je ferai un petit épisode là-dessus parce que déjà, vous connaissez mon amour pour Claude. C'est les premiers qui ont introduit les artefacts dans les agents IA, dans les agents conversationnels. Et voilà, donc je suis assez curieux, mais ça m'a l'air quand même vraiment très intéressant pour développer des petites applications, des petites choses simples, hein, probablement, on ne va pas du tout aussi loin que sur du Lovable ou du Bolt, mais ça peut être quand même vraiment très, très intéressant d'avoir un environnement un petit peu plus développé que juste les artefacts que l'on avait avant. Et Anthropic, ils ont aussi fait autre chose que j'aimerais un petit peu commenter un peu plus. C'est une expérimentation qui s'appelle Project Vend, où ils ont laissé Claude gérer entièrement une petite boutique. Et franchement, je trouve que j'adore Anthropic parce qu'en fait, ils sont hyper réalistes et lucides. Et globalement, ça n'a pas très bien marché. Et franchement, c'est hyper intéressant. Mais ça, je le recommanderai aussi un petit peu plus tard. Voilà, donc ça, c'était un petit peu le tour d'horizon. Et il y a un dernier truc, un article de Tariq Krim, que je suis, qui est un entrepreneur de la grande époque des startups, enfin des années 2000 en France, qui est quelqu'un que j'apprécie beaucoup, que je n'ai pas la chance de connaître personnellement, mais qui publie des choses extrêmement intéressantes sur le numérique depuis des années. Et là, il a publié un article. En fait, il a commenté une recherche qui est sortie sur l'impact de l'usage de l'IA, des agents d'IA dans notre quotidien, sur nos capacités cognitives. Alors, c'est des recherches qui n'ont pas beaucoup de recul, mais il y a un papier de recherche très intéressant, et lui-même partager un petit peu ça. Il écrit des longues newsletters et ça, franchement, c'est hyper intéressant. Il faut encore un petit peu que je le digère, mais j'ai moi-même aussi des réflexions un petit peu par rapport à ça, où vraiment je me pose beaucoup de questions, où j'ai l'impression qu'au fil du temps, là, dans les 3 dernières années, je suis mis à trop utiliser l'IA. C'est un petit peu paradoxal parce qu'on a tendance à dire il y a encore beaucoup de gens qui n'utilisent pas du tout, et moi je pense que les agents conversationnels type Claude ou ChatGPT peuvent rendre des services vraiment quotidiennement dans notre vie professionnelle, hein, principalement, je crois que dans la vie privée, pas forcément, mais encore que, bon, ça se discute. Mais il y a un moment aussi où j'ai eu la sensation un petit peu de commencer à trop l'utiliser, de trop en devenir dépendant, de faire des choses un peu bêtes, de faire des copier-coller, de faire, hop, dicter une phrase comme ça, puis prendre, faire une transcription, copier-coller telle quelle la réponse de l'IA quasiment sans la relire. Et ça, je me dis que c'est déjà c'est bête parce que c'est pas toujours complètement pertinent. Et puis, ça induit une espèce de paresse intellectuelle où, dans laquelle on peut facilement tomber. Et je pense que même plus ces outils deviennent intelligents, je le dis souvent, je trouve que des modèles comme le modèle O3 ou les derniers modèles de Claude sont vraiment assez intéressants et ils peuvent rendre vraiment service, ils peuvent faire des tâches professionnelles à un niveau. Mais je pense que même quand ils seront encore plus intelligents, eh bien, il faudrait, en tout cas moi, j'aimerais essayer de les garder comme des assistants et pas pour me remplacer sur certaines tâches, notamment, évidemment, bon, sur les tâches de réflexion, etc. Ça viendra toujours de moi, mais même sur des réflexions un peu poussées, du travail de recherche, des choses comme ça, je pense qu'il faut toujours... Enfin, j'ai l'impression, c'est mon intuition, qu'il faudrait toujours un petit peu faire le premier travail, ou en tout cas, si on leur demande de faire un premier travail de recherche, bien relire soigneusement tout ça pour développer ses capacités cognitives. Voilà. Et donc, il y a des... Là, Tariq Krim commentait un petit peu là-dessus, et en partant d'un papier de recherche qui fait justement essayer de voir quel est l'impact de l'usage, pas forcément sur le long terme, mais même à relativement court terme, sur voilà, vraiment comment le cerveau fonctionne, l'activité, l'intensité de l'activité cérébrale, etc., quand on utilise des agents d'IA ou quand on fait des tâches par soi-même et tout quoi. Voilà, mais bon, ça aussi, je vais un petit peu plus me plonger dedans parce que je trouve que c'est un sujet vraiment hyper intéressant. Et donc, je vais bien lire le papier de recherche avant de vous en parler. Voilà, donc vous voyez, on a une semaine, là, on est mercredi, mais je pense que je vais faire un épisode par jour, creuser un petit peu certains de ces sujets, un petit peu au gré aussi de mes lectures. Et puis voilà, mais on reprend le rythme. Là, voilà, cette petite pause aussi m'a fait du bien. Je suis très, très honnête, c'est peut-être lié d'ailleurs à ce que j'évoquais là, mais je pense aussi que c'est bien aussi un petit peu de faire une pause complètement, de recharger un petit peu les batteries mentales, de s'éloigner des sujets du quotidien. Et voilà, ça apporte une autre perspective. Voilà, mais de ne pas être tout le temps tourné en boucle autour de ces sujets, de l'IA, de machin, du vibe coding, des trucs. Ça m'a fait du bien. Et de faire juste vraiment rien à voir, d'aller à un festival et d'écouter de la musique et d'être avec des gens qui en ont un peu rien à foutre de tout ça, c'était bien. Voilà, écoutez, je vous laisse là et puis je vous dis à très bientôt pour le prochain épisode. Et j'ai aussi des petites interviews qui vont sortir, une interview très intéressante de Patrice Cassard aussi qui arrive là, qu'il faut que je monte aujourd'hui. Allez, à plus, salut.